ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mercredi 24 février 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau, très heureuse de vous retrouver une dernière fois cette semaine pour l'émission Ça vaut le détour, votre boîte à outils pour contourner les obstacles du handicap. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis dès midi. Je vous invite à nous suivre sur Twitter avec le mot-clic CVLD ou @canal barre de soulignement M. En tout temps, vous pouvez nous soumettre des sujets qui vous touchent ou commenter sur les propos de nos invités. À l'émission aujourd'hui, on fait un retour sur le 18e symposium scientifique sur l'incapacité visuelle et la réadaptation qui avait lieu le 9 février dernier. Le thème du symposium en 2016 était « La technologie au service de la réadaptation visuelle ». On en discute avec Marie-Chantal Ouanet, chercheure et responsable du site CRIRINLB et professeure associée à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. On reçoit Sarah Rouleau, relationniste à la Fondation des aveugles du Québec. Dans sa chronique, elle nous donne quelques suggestions d'activités hivernales à faire en famille, notamment du ski adapté pour les personnes malvoyantes. On commence notre émission avec un segment double ce midi. Durant la première demi-heure, on va parler culture et inclusion sociale avec deux invités qui ont à cœur la participation des personnes handicapées. On met en lumière les initiatives d'une institution du quartier Centre-Sud de Montréal, l'Écomusée du Fiers-Mondes, située sur la rue Amherst à quelques rues de Vuzévoie. Ce sera aussi l'occasion de souligner notre coup de chapeau de la semaine en discutant de l'exposition d'un œil différent qui aura lieu du 2 au 17 mars 2016. J'accueille en studio Mme Geneviève Guibeault du comité organisateur d'Un œil différent et René Binette, directeur de l'Écomusée du Fiers-Mondes. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans nos studios.
Merci.
Tout d'abord, Monsieur Binette, on va commencer par présenter l'Écomusée du Fiers-Mondes à nos auditeurs.
Oui, alors l'Écomusée, comme vous le disiez, se trouve sur la rue Amherst, un peu au nord d'Ontario. Dans un ancien bain public, une ancienne piscine publique qui date de 1927, un bâtiment qui est magnifique d'ailleurs. Et donc, la mission de notre musée, on pourrait dire qu'on se définit comme un musée d'histoire et un musée citoyen. Alors, d'une part, on raconte l'histoire du milieu dans lequel nous nous trouvons. Et il s'agit d'un vieux quartier industriel et ouvrier. Donc, on raconte dans notre exposition permanente la trajectoire, pourrait-on dire, de la vie quotidienne dans un quartier ouvrier, l'histoire du Montréal populaire, pourrait-on dire. Mais musée citoyen aussi parce que toute la question de la démocratie culturelle, de l'inclusion des différents publics et de la participation, ce sont des enjeux qui nous tiennent à cœur.
Et que vous développez avec différents projets, dont celui d'un œil différent, dont on va avoir l'occasion de parler en détail durant l'émission. Je voulais revenir sur ce nom. Écomusée du Fiers-Monde. C'est très évocateur, mais qu'est-ce que ça signifie?
Bien, le Fiers-Monde, en fait, et ça a été donné dès à l'origine de la création de l'organisme, c'est l'idée que dans ce milieu qui est, comme je le disais, un vieux quartier ouvrier, souvent c'est un quartier qui était dévalorisé à qui on accolait différentes étiquettes. Et les gens disaient, bien, on veut valoriser ce quartier, on veut créer la fierté dans le quartier, d'où le nom l'Écomusée du Fiers-Monde. Alors, ce nom de Fiers-Monde, c'est au début des années 80 que ça avait été adopté de cette façon-là. Un des objectifs, c'est de créer la fierté dans le milieu.
Et je crois que jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Vous avez vraiment une préoccupation pour ce qui est de l'inclusion sociale, de la participation aussi des groupes marginalisés. Donc, vous travaillez à différentes expositions pour mettre en valeur les citoyens de Centre-Sud, mais aussi, on pourrait dire, des Montréalais, des Québécois en général.
Oui, c'est-à-dire qu'on a un fort ancrage dans le quartier, mais nos activités s'adressent à l'ensemble des Montréalais et on parle d'une réalité qui est montréalaise, pourrait-on dire. Alors oui, pour nous, la démocratie culturelle, c'est important, c'est-à-dire qu'on veut que les gens viennent à nos activités, mais pas seulement comme des visiteurs, mais aussi comme des participants aux expositions et aux activités. Alors on fait différents projets avec des groupes assez variés, entre autres avec des analphabètes, mais dans le cas d'un œil différent, c'est avec les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou, en fait, on dit DITSA, hein, mm-hmm. je veux dire, toute la question de l'autisme, le spectre de l'autisme. Alors donc, c'est avec plusieurs partenaires, hein, parce que d'un œil différent, ça regroupe plusieurs partenaires, on y reviendra tout à l'heure. Alors donc, pendant 2 semaines, on offre non seulement une exposition, mais toute une série d'activités qui permettent à ces personnes de venir non seulement comme des visiteurs, mais ils sont des participants aux activités, ils sont des exposants à l'intérieur du musée. Ce qui, je pense, au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'empowerment, au niveau de la mm-hmm. valorisation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et en même temps qu'on fait ça, tout ça est dans une très grande qualité. C'est-à-dire que on est quand même dans un niveau muséal, pourrait-on dire. Alors, c'est tout à fait, comme je le disais, valorisant pour ces personnes.
Madame Guibault, justement, cet événement d'un œil différent... coïncide avec la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui aura lieu du 13 au 19 mars 2016. Présentez-nous l'activité dans ces grandes lignes.
D'un œil différent, bien, c'est pas seulement une exposition. Souvent, c'est appelé l'exposition d'un œil différent, mais c'est presque, mettons, un petit festival. Ça ressemble à un petit festival parce que c'est vrai que l'exposition, c'est la majeure parce qu'on a pas loin de 200 artistes. On est en train de les compter, la finale, là, on a presque 200 artistes ou peut-être plus qui exposent des œuvres.
On parle d'art visuel.
D'art visuel, oui. Fait que ça donne... c'est sûr que c'est une très grosse exposition. Il y a des artistes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, mais on a aussi des artistes qui n'en ont pas. C'est un peu le propre de donner un différent, c'est qu'on veut que ça soit mixte, on veut mélanger les gens. On veut mélanger les artistes pour qu'il y ait des échanges. Mm-hmm. Fait que ça se veut dans l'exposition d'œuvres d'art, mais aussi dans toute la programmation. On a une programmation qui dure 2 semaines, comme disait M. Binette.
Et, oui, parce que ça commence le 2 mars, le coup d'envoi.
Oui, la semaine prochaine.
Et justement, je reviens à vous, M. Binette. Donc, il y a à la fois ces expositions, ces activités qui ont lieu au musée. Qu'en est-il de l'accessibilité physique du musée, des lieux?
Bien, c'est-à-dire que d'une part, si on parle d'accessibilité, peut-être la première chose, c'est que pendant les 2 semaines, l'entrée est gratuite. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à souligner aussi, c'est-à-dire que pendant ces 2 semaines-là, ben voilà, c'est porte ouverte pour tout le monde, voilà. Pour ce qui est de l'accessibilité, si on parle de personnes qui seraient, par exemple, des personnes âgées ou à mobilité réduite, mm-hmm. ben nous, on a, c'est ça, le bâtiment, il est aux normes, si on peut dire, pour que des personnes en fauteuil roulant ou autre chose puissent avoir accès à l'ensemble des activités. Alors donc, ça, c'est quelque chose qui existe. Mais j'ajouterais comme peut-être un autre niveau, c'est au fond, l'accessibilité, c'est pas seulement une question de coût ou une question de monter les escaliers, si je peux mm-hmm. dire. C'est aussi, bien sûr, une question de comprendre ce dont on parle. Hein? Alors, on pourrait dire qu'on parle parfois de médiation culturelle. C'est un formidable exemple mm-hmm. de médiation culturelle. Alors, les gens, et on y reviendra sur la programmation, mais il s'agit justement d'œuvres et d'activités qui sont accessibles à tous. Et il y a des gens, lors de certains moments, qui nous accueillent, qui nous présentent des choses, qui nous font des démonstrations, qui nous font participer. Même le public va participer à un certain nombre d'activités. Alors, en ce sens-là, je Bon, on ne sera pas faussement modeste. Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment un très bel exemple de médiation culturelle, de démocratie culturelle, c'est-à-dire l'idée que tout le monde a une culture, tout le monde peut s'exprimer et un musée peut ouvrir ses portes aux gens pour qu'ils viennent parler de leur création et exposer leur création.
Justement, on parle du moins durant l'événement d'un œil différent, l'entrée est gratuite. Le reste de l'année, est-ce que les personnes à mobilité réduite qui viennent accompagner, est-ce que l'accompagnateur peut bénéficier d'une entrée gratuite?
Oui,
parce que souvent, ça a un impact sur la consommation culturelle des gens.
Oui, c'est-à-dire que pendant les 52 semaines de l'année, bien sûr, bien, d'une part, il y a des prix de groupe. Quand les groupes nous contactent à l'avance, il y a un prix. Et effectivement, les accompagnateurs ne payent pas. Mais aussi, lorsque les groupes s'annoncent, bien, on essaie de leur faire un accueil spécial, une animation spéciale.
Mm-hmm.
Hein? Je veux dire, on a un souci de que le public... Évidemment, le public individuel, on ne peut pas faire des visites guidées ou des activités spéciales pour chaque personne qui vient, mais lorsque c'est un groupe, c'est une chose qui est importante pour nous.
Donc, justement, les besoins particuliers des visiteurs sont pris en considération. On parle vraiment aussi, non seulement de l'accessibilité des lieux, accessibilité financière, mais aussi d'un service d'accueil qui est sensibilisé à ça.
Oui, et je dirais que ça va tout à fait dans l'idée de, je vous le disais tout à l'heure, du musée citoyen.
On va revenir brièvement sur certaines expositions ou certaines activités que vous avez eues dans les dernières années qui concernaient justement ou en fait la participation de différents groupes de personnes en situation d'handicap. Il y avait entre autres l'événement Chute, regardez la déficience autrement qui abordait aussi la question de la déficience intellectuelle en 2013. Donc, c'est pas nouveau finalement pour vous d'inclure les personnes handicapées.
Oui, nous, on a, comme je vous le disais, une préoccupation pour l'ensemble des publics pour lesquels parfois il y a une barrière qui ne leur permet pas toujours facilement d'avoir accès aux activités puis aux équipements culturels. Alors, pour nous, ça fait partie des préoccupations, oui, dans le cadre de ce projet que vous mentionnez, Chute, regardez. L'an dernier, et en fait, c'est un projet qui se poursuit, on aura l'occasion d'en discuter plus tard, on a un projet qui s'appelle Le Peuple de l'œil,
oui.
Qui est une exposition avec des gens, des organismes de la communauté sourde. Alors donc, et pour qui l'accès au musée, ce n'est pas évident. Alors donc, on discute avec ces gens-là sur les meilleures façons d'améliorer notre accueil, d'améliorer nos présentations et on va faire une exposition l'an prochain qui va porter sur l'histoire de la communauté sourde et sur les enjeux liés à cette communauté-là. Et évidemment, ben, comme je le disais, un des très beaux exemples, c'est celui qui commence la semaine prochaine, c'est D'un œil différent.
D'un œil différent dont on va parler plus en détail après cette petite pause musicale. Je vous rappelle mes invités, M. René Binette de l'Écomusée du Fiers-Mondes et Geneviève Guibeau du comité organisateur de l'événement du festival. Moi, je crois qu'on peut le renommer comme ça, du festival D'un œil différent. À tout de suite.
Qui me dit des mots que je veux entendre pour cacher ses défauts. Il sait toujours quoi me dire pour pouvoir me garder, même s'il doit mentir.
Même si on me dit y'en a d'autres, même si on me dit y'en a d'autres, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste être sous les draps. Même si on me dit y'en a d'autres, même si on me dit y'en a d'autres, ça fait huit mois qu'on est là.
Gabrielle Goulet avec sa pièce « Pas plus que ça » tirée de son album « Juste toi » paru en 2016. Une découverte pour moi ce matin, c'était la première fois que j'entendais cette pièce. Donc, on va surveiller l'évolution de l'artiste. Chaque semaine, l'équipe de Canal M souligne le travail exemplaire d'un individu ou d'un organisme se démarquant par une initiative favorisant la participation sociale des personnes handicapées. Cette semaine, c'est ce partenariat entre l'Écomusée du Fiermonde et l'événement culturel annuel d'un œil différent qu'on souhaitait mettre en évidence. On trouve que c'est justement une collaboration précieuse. Et pour vous, Geneviève Guibault, qui est du comité organisateur de l'événement, on peut dire que ça allait de soi de faire un partenariat comme tel avec l'Écomusée du Fiermonde.
Ça allait de soi. Ça va de soi maintenant?
Oui.
Ça va de soi maintenant.
Peut-être pas la première année.
La première année, on n'était pas certain parce que, on n'était pas habitué d'abord. On allait d'exposition en salle d'exposition. Puis à un moment donné, on a cogné à la porte de l'Écomusée en se disant, bon, peut-être que ça ne sera pas possible. Mais finalement, on s'est retrouvés là puis on a trouvé ça extraordinaire. L'accueil a été vraiment chaleureux. L'accueil a été très adapté. Quand on parle d'intégration, on ne parle pas seulement d'adaptation physique, on parle aussi d'attitude. Puis l'attitude de l'Écomusée a été vraiment encourageante pour nos artistes.
Justement, parce que c'est la 11e édition d'Un œil différent, mais ça fait depuis 2009 que vous êtes en fait en résidence à l'Écomusée du Fiermonde. On va revenir sur l'histoire et la raison d'être d'Un œil différent.
Ça existe depuis, c'est la 11e année, donc au début, il y avait des ateliers qui étaient donnés dans divers organismes en déficience intellectuelle ou en trouble du spectre de l'autisme, et on utilisait l'art comme outil de réadaptation. On s'en servait pour faire des apprentissages, pour apprendre des comportements. Puis on a réalisé qu'il y avait des gens, d'abord que ça marchait très bien, que ça donnait de très bons résultats, et ensuite qu'il y avait des gens parmi les participants qui avaient des talents particuliers. Puis on s'est dit, il faut absolument que ça qu'on montre ça. On ne peut pas garder ça entre nos murs puis montrer ça juste aux parents puis aux intervenants autour. Il faut que le grand public soit conscient qu'il y a des vrais artistes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.
Et justement, parce que certaines œuvres qui sont issues d'ateliers d'art-thérapie, vous l'évoquiez un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est près de 200 artistes, en fait, qui font partie de cette 11e édition, plusieurs en art visuel. Et on a ce désir de mêler les artistes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme avec des artistes qui ne sont pas en situation de handicap. Comment ça se passe, ce processus de sélection des autres artistes?
Mais d'abord, il y a des artistes qui nous suivent déjà depuis le début. Depuis la deuxième année, je pense, de Donner différent, on a commencé à inviter des artistes qui n'avaient pas de déficience intellectuelle ou de troubles du spectre de l'autisme. On a commencé avec des étudiants en art de l'université.
Mm-hmm.
Puis après ça, ils sont venus l'année d'après, puis de plus en plus, il y a eu de gens qui se sont greffés à nous comme de bouche à oreille. Là. On n'a pas fait une grande publicité, mais on a toujours des gens qui se bousculent à la porte pour venir, à donner un différent, parce que les gens veulent venir, veulent exposer avec nous, veulent entrer en contact aussi avec les artistes qui ont une déficience intellectuelle. On a maintenant un réseau,
mm-hmm,
qui amène son réseau aussi. Ça fait partie un peu des conditions de notre sélection. On dit aux gens, vous autres, vous êtes des artistes qui n'ont pas de déficience intellectuelle, bien alors, vous amenez votre réseau. Vous amenez des gens qui vont venir voir, qui vont venir parler avec nos artistes de nos ateliers pour les connaître, pour les faire connaître, dans le fond.
C'est vraiment un formidable exemple d'inclusion, finalement, vraiment d'avoir les deux, de ne pas savoir en tant que visiteur qui la condition de l'artiste. Mm-hmm. Donc, on laisse la situation d'handicap derrière, on se concentre uniquement sur l'œuvre en tant que telle. Il y a aussi d'autres activités, à la fois des activités qui se passent à l'écomusée, mais aussi des activités à l'extérieur du musée.
Oui, un peu comme on disait, comme un festival. Il y a des activités, la majorité se déroule à l'écomusée, mais on a aussi un partenariat avec l'UQAM cette année. On a une activité qui va se dérouler là-bas, qui va être une présentation en direct, une mini-exposition. Puis il y a aussi le spectacle Avec pas de cœur de Magouane et les orteils qui se déroule au sein d'un indifférent, mais qui ne se passe pas à l'écomusée.
Mais qui est une troupe de danse.
Oui, c'est ça.
Et il y a aussi quelques activités particulières. J'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour parler de la remise du prix Jeannine Suteau.
Les prix Jeannine Suteau sont remis lors de la soirée d'ouverture. La soirée d'ouverture, je dirais que c'est le moment fort de Donner différent parce qu'on attend autour de 450 personnes mercredi prochain, le 2 mars. Et lors de cette soirée-là, ben, c'est le vernissage de l'exposition en même temps et la remise des prix Jeannine Suteau qui se déroule pendant la soirée.
Et en fait, c'est un prix qui souligne quoi exactement?
Ben, en fait, il y a deux prix Jeannine Suteau. C'est pour ça qu'on dit la remise des prix.
Des prix.
Parce qu'il y en a un qui est remis à un artiste qui s'est démarqué, un artiste qui a un handicap, soit une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, qui s'est démarqué par sa participation sociale, par son rayonnement dans la communauté, et aussi à un projet ou un organisme qui se démarque, lui, pour justement les efforts qu'il fait pour intégrer les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.
Donc, on y va vraiment on célèbre en fait ces deux aspects, mm-hmm, d'inclusion sociale. Est-ce que les œuvres qui sont exposées sur place, on parle de toutes les œuvres qui feront partie de cette 11e édition, sont-elles à vendre? Est-ce qu'on peut acquérir
la plupart
œuvres?
La plupart sont à vendre. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas à vendre. La plupart sont à vendre, oui.
Et est-ce que les fonds reviennent à l'artiste directement?
En partie, parce que chaque organisme qui expose, c'est un petit peu plus compliqué, chaque organisme qui expose a sa procédure. Donc, si on vend une œuvre, bien là, chaque organisme, mettons, la plupart du temps, il y a presque la moitié qui revient à l'artiste, puis l'autre qui va à l'organisme pour financer ses activités, le matériel, etc. Et tous les artistes invités qui sont qui viennent pas des organismes du comité organisateur, mm-hmm, eux, le revenu sont remis totalement à eux.
Justement, parce qu'il faut le dire, il y a un comité organisateur, donc c'est plusieurs organismes qui font partie d'un œil différent.
Oui, on est plusieurs. On est cinq organismes. Il y a l'Écomusée du Fiermont, qui est un partenaire important. On a SOS, sans oublier Sourire. Il y a les Compagnons de Montréal, le parrainage civique Les Marronniers, la gang à Rambrou et le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre-Sud de l'île de Montréal, installation CRDT de Montréal.
C'est complet.
Oui.
C'est complet. Je voyais que l'année dernière, l'événement était en difficulté financière, était menacé. Est-ce que ça va mieux en 2016?
Honnêtement, pas vraiment.
Bon, c'est souvent le nerf de la guerre. On parle aussi même de peut-être que vous pouvez répondre, M. Binette aussi, pour assurer la pérennité de ce type d'événement-là. À la fois, ça prend le diffuseur qui accueille, ça prend aussi les artistes, un soutien pour ces artistes-là. C'est souvent le nerf de la guerre, le financement, et d'arriver à maintenir ce genre d'activité. Comment ça se passe en ce moment?
Bien, je dirais qu'on a des subventions, des dons de fondations. Le plus gros partenaire cette année, c'est la fondation DITSA de Montréal. Mais on ramasse des sous, on n'en a pas assez. Il y a beaucoup, il y a des centaines d'heures de bénévolat qui sont offertes par le comité, parce que sinon, on n'y arriverait pas. Fait qu'on est honnêtement très sérieusement à la recherche de fonds qui seraient récurrents d'année en année, parce que c'est essoufflant un petit peu pour le personnel.
Puis justement, M. Binette, le partenariat comme celui avec l'Écomusée du Fairmonde, c'est là qu'on voit concrètement que ça aide à maintenir des initiatives en place.
Oui, mais en même temps, la situation financière des organismes culturels comme l'Écomusée, je dirais, nous, on a des budgets qui nous permettent, bien sûr, de garder l'édifice. Gérer un édifice, là, c'est des coûts. Et nous, on est en mesure de continuer à accueillir l'événement dans les prochaines années, sauf que l'organisation de l'événement, l'organisation de l'exposition, l'ensemble de ce dont on vient de parler, voici ce pourquoi des sous supplémentaires pour aider, non pas l'Écomusée dans ce cas-ci, mais pour aider le projet d'un œil différent, c'est quelque chose d'important. Et je me permets une petite remarque. Tout à l'heure, vous nous parliez du nom du Fairmonde, d'un œil différent. Quel joli nom! Et j'inviterais tous les visiteurs, tout le public à venir jeter un regard différent sur différents publics et sur les œuvres qui sont présentées.
Merci beaucoup. Ce sera notre mot de la fin. On met le 2 mars à notre agenda pour le vernissage de ce festival, le coup d'envoi du festival d'un œil différent. Je remercie mes invités, Geneviève Guibeault du comité organisateur d'un œil différent et René Binette, directeur de l'Écomusée du Fairmonde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleaux.
De retour à Ça vaut le détour. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux avec le mot-clic CVLD. On continue dans une chronique de la Fondation des aveugles du Québec. En cette période de l'année où plusieurs sont en semaine de relâche ou le seront bientôt, Sarah Rouleau, relationniste de la Fondation des aveugles du Québec, a choisi de nous parler d'activités hivernales pour les jeunes ayant une déficience visuelle. Bonjour Sarah.
Bonjour.
De retour dans les studios de Canal M,
mais
ça
oui,
fait déjà un mois.
Pour la nouvelle chronique.
Qu'on s'est vu. Sarah, lors de votre première chronique, on avait vu les différents services offerts par la Fondation des aveugles du Québec, notamment les volets habitation, sensibilisation. La Fondation a aussi un service de loisirs spécialement conçu pour les enfants avec un handicap visuel.
Oui.
Quelles activités nous suggérez-vous pour la période hivernale?
Bien, en fait, nous, à la Fondation des aveugles du Québec, on fait vraiment plein d'activités. En hiver, on fait des glissades, de la pêche sur glace, de la raquette, du patin, même de l'escalade de glace avec nos participants qui ont une déficience visuelle. Donc, ce sont tous des activités que vous pouvez faire, soit avec vos enfants ou vos amis qui ont un handicap visuel. En fait, moi, ce que je suggère, c'est vraiment de les amener faire le plus de choses possible. Parce que souvent, trop souvent, en fait, les jeunes qui ont une déficience visuelle, ils vont être laissés derrière, ils vont rester à la maison, vont être sédentaires et ils sortiront pas l'hiver. Mm-hmm. Mais avec un ami ou un membre de la famille comme guide, il y a vraiment plein de choses qu'ils peuvent faire. Donc, ça serait ça, là, mes suggestions, de ne pas s'imposer de limites.
Ne pas s'imposer de limites, même en hiver, parce que l'hiver, parfois, représente en tant que tel une limite.
Oui.
Mais il y a toujours moyen de faire quelque chose.
Oui, il faut, pour que ça passe plus vite et que ça soit plus agréable, ben il faut jouer dehors.
Il faut jouer dehors. Justement, la Fondation des aveugles du Québec emmène les jeunes aveugles faire du ski. Et là, on ne parle pas de ski de fond, mais on parle plus de ski alpin.
Ski alpin, oui. Donc, oui, mais c'est la preuve là, qu'on peut vraiment faire de tout. On a eu notre première saison là, en 1994, puis ça fait plus de 20 ans qu'on les amène sur les pentes.
Pourquoi avoir choisi le ski? Qui a eu cette idée à la fois brillante, mais téméraire d'aller faire du ski?
Oui, effectivement. En fait, c'est Ronald Beauregard, qui est l'actuel directeur général de la Fondation et qui est aussi un des cofondateurs. C'est lui qui a parti le service de loisirs. Il était, comment dirais-je, il travaillait avec les jeunes aveugles en orientation et mobilité. Et il a constaté que les jeunes, ils ne faisaient pas vraiment, en fait, ils étaient souvent exclus des activités sportives, récréatives, etc. Donc, il a voulu mettre sur pied le service de loisirs. Et lui-même a une déficience visuelle. Et quand il a découvert le ski, il a adoré son expérience. Donc, il a voulu partager sa passion. C'est pour ça qu'il a eu l'idée d'amener les jeunes avec le service de loisirs faire du ski. Et il ne faut pas se le cacher aussi, c'est une des activités les plus intégrantes et valorisantes. Donc, les jeunes, quand ils reviennent le lundi à l'école, là, ils sont super fiers d'avoir fait du ski ou de la planche. Ça impressionne beaucoup les gens autour d'eux, puis ça fait un effet « wow ». Donc, ça prouve justement, tu sais, c'est une bonne façon de les intégrer, puis aussi de montrer là, qu'ils pouvaient faire de tout.
Justement, on sait que le ski peut s'adapter pour les personnes à mobilité réduite, entre autres, ou en situation d'handicap physique. Par exemple, il y a du ski assis. J'en ai moi-même déjà fait l'expérience. Par contre, comment est-ce qu'on adapte l'activité pour les personnes malvoyantes ou aveugles?
Bien, nous, à la Fondation, on a vraiment développé une technique au cours des années. La technique a été développée avec un spécialiste en ski pour les personnes handicapées et qui est aussi thérapeute en kinésiologie chez les enfants. C'est important de dire que déjà, nous, nos moniteurs, on leur donne une formation spéciale pour notre clientèle. Et il y a toujours un moniteur avec un jeune. Donc, pour la sécurité, c'est un ratio 1:1. Et ensuite, bon, nous, notre technique, c'est vraiment, on commence en main à main avec le jeune skieur ou planchiste. Et au début, ça va être vraiment avec un système de pression dans les mains que le jeune va savoir quel côté tourner.
Se pencher oui, c'est pour, ça,
pour bien, comment dire, là, avoir son sens de l'équilibre qui se développe bien et tout, puis pour savoir de quel côté tourner. Et ensuite, une fois que, bon, la position, tout ça est acquis, on va éventuellement lâcher les mains. Le moniteur est toujours de reculons pour commencer et il va aller avec la voix, donc pour indiquer les virages. Et quand là, le jeune est vraiment en confiance puis que ça va bien, qu'il a appris la technique, le moniteur, au lieu de skier à reculons, va se mettre derrière le jeune et le suivre. Et là, ça va être vraiment juste par la voix. Donc, le jeune va y aller par lui-même. Puis bon, on va pouvoir améliorer sa technique avec les conseils du moniteur. Mais éventuellement, le but, c'est ça. C'est que le moniteur là, soit derrière lui. Puis ça fait... il y a peut-être une centaine de jeunes qui ont appris à faire du ski avec nous. Donc,
Est-ce que vous avez une collaboration avec un mont un centre de ski en particulier dans la région de Montréal, par exemple, ou
non,
c'est comme du cas par cas,
non, ben
région
par région? Non, tout notre service de loisirs, notre but, c'est vraiment de découvrir le plus de régions possibles et de pouvoir, parce que bon, la majorité de nos jeunes viennent du Grand Montréal, mais il y en a qui viennent de d'autres régions, puis on veut qu'ils puissent se joindre à nous, à nos activités. Donc, on essaie d'aller au plus de places différentes possibles. Donc, l'hiver, on fait à peu près une dizaine de sorties de ski, puis c'est dans 10 monts différents la plupart du temps.
OK, donc c'est vraiment quelque chose aussi qui est accessible partout au Québec. Donc, on peut rejoindre de plus en plus de jeunes. Est-ce que c'est possible, donc, que le jeune fasse l'activité, qu'il soit accompagné des membres de sa famille ou de ses amis qui ne sont pas en malvoyants ou en situation de handicap?
Oui, bien, en fait, Je ne sais pas si c'est oui. Je vais vous expliquer. C'est que nous, on a des moniteurs et on a des bénévoles. Et ça, c'est vu quelquefois avoir des parents qui viennent pour être bénévoles. Donc, ils apprennent comment guider leur enfant qui a déjà atteint un certain niveau. Et par la suite, c'est facile pour lui de pouvoir faire du ski avec son jeune à d'autres moments, pas nécessairement juste avec la Fondation des aveugles du Québec. On a aussi déjà formé des gens à l'école pour que un jeune puisse aller faire des sorties avec l'école. Mm-hmm. Donc, c'est possible. Mais c'est sûr que le jeune, idéalement, au début, nous, on a des moniteurs experts qui vont y donner la base, lui expliquer la base. Mais notre but, c'est de les rendre autonomes. Puis tant mieux si les parents ont le goût de faire du sport avec eux, de faire du ski. Mais on sait que c'est pas tous les parents non plus qui sont en mesure de bien guider leurs jeunes parce que peut-être qu'eux-mêmes en font pas. Donc, c'est pour ça que nous, on offre la sortie. Mais oui, c'est possible. Avec les amis ou la famille.
C'est un très bon exemple d'inclusion sociale par le sport. Quels autres sports d'hiver est-il possible de pratiquer avec la Fondation des sports aveugles, Fondation des aveugles du Québec, pardon?
Bien, nous, cette année, en fait, à chaque année, on a les glissades parce que, bon, c'est un incontournable. Comme tous les enfants, nos participants adorent la glissade. On fait de l'escalade de glace. On a eu une chasse au trésor en raquette et on a fait du patin. Et là, prochainement, ils s'en vont à Jouvence une semaine. C'est un centre de villégiature. Ils vont être vraiment en plein air. Puis on a toujours la cabane à sucre. Ça, c'est pas vraiment sportif, là. Mais c'est toujours une activité agréable qui revient à chaque année. Puis on a, là, cette année, l'escalade de glace, c'est notre grosse activité. Des fois, c'est traîneau à chien. Tu sais, on essaie d'avoir une activité un peu plus flyée là, à chaque mm-hmm. hiver.
À chaque hiver qui revient. Pour d'autres idées d'activités en famille, aujourd'hui, vous nous faites découvrir le projet WIX, W-I-X. XX.
Oui. En fait, j'adore ça. Là. Je donne souvent des idées sur nos médias sociaux avec Wix. C'est un projet qui vise à faire bouger les enfants de 9 à 13 ans. Il donne des conseils autant aux enfants, aux parents qu'aux intervenants. Le site, c'est www.wixxmag.ca. Ils ont des défis qu'on peut donner aux jeunes, des idées d'activités à faire dans les parcs nationaux, des chalets à visiter, etc. pour l'hiver. Ils offrent des suggestions comme ça, même pour l'été, l'automne, pour toutes les saisons, puis pour les différentes régions. Donc, c'est super intéressant. C'est une source d'inspiration très diversifiée là, pour jouer dehors puis faire du sport.
Pour ceux qui souhaiteraient, par contre, rester à l'intérieur, mis à part la cabane à sucre, qui est quand même toujours attrayante, quelles sont d'autres suggestions pour les familles qui souhaitent passer du temps ensemble aussi?
Oui, bien pour la semaine de relâche, si vous préférez faire des activités à l'intérieur, je vous suggérerais d'aller visiter notre Pinterest. Pinterest, www.pinterest.com. Vous cherchez Fondation des aveugles du Québec. Vous allez trouver nos albums dans lesquels on a mis plusieurs suggestions, soit d'activités ou de bricolage qui peuvent être faites par des enfants qui ont une déficience visuelle. Donc, on essaie toujours d'en rajouter. Puis souvent, là, c'est la preuve que juste avec un peu d'adaptation, un peu de texture par-ci, par-là, on peut faire plein d'activités avec nos enfants ou nos amis ou encore nos élèves si on est un mm-hmm. professeur. Donc, c'est un peu une source d'inspiration. Fait que je vous invite vraiment là, à aller voir notre Pinterest.
On va aussi mettre ce lien sur la page de l'émission à la fin de la journée. Bref, on voit en fait qu'avec un peu d'adaptation, tout est possible.
Oui, oui, vraiment. C'est le message un peu là, que je voulais vous donner aujourd'hui. Allez jouer dehors avec un handicap visuel ou non. Il y a plein d'activités à faire. Et bonne semaine de relâche, en fait.
Oui, bonne semaine de relâche. Les familles vont pouvoir en profiter. La Fondation des aveugles du Québec est toujours là pour des suggestions d'activités. En terminant, il nous reste quelques secondes. On avait discuté lors de votre première visite du gala Humour aveugle qui aura lieu le 14 mai 2016. Reste-t-il des billets?
Oui, il y a toujours des billets, donc oui.
Parfait. Donc, on se rend sur humouraveugle.com si on veut encore une fois assister à ce gala.
Oui.
Merci beaucoup, Sarah Rouleau. Vous êtes relationniste à la Fondation des aveugles du Québec. Merci pour ces suggestions.
Ça fait plaisir.
Je n'ai vu autant de toi.
Lumière et Diamant de Mara Tremblay, tiré de son album À la manière des anges, paru en 2014. Toujours agréable d'entendre cette très, très chouette chanteuse. C'est sous le thème « La technologie au service de la réadaptation visuelle » que se tenait le 18e symposium scientifique sur l'incapacité visuelle et la réadaptation qui avait lieu le 9 février dernier. J'ai en studio avec moi Mme Marie-Chantal Ouanet, chercheure et responsable de site CRIR-INLB et professeure associée à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Ouanet.
Bonjour, Mme Paul-André Morlot.
Tout d'abord, on va remettre en contexte le symposium. C'était la 18e édition, symposium scientifique sur l'incapacité visuelle et la réadaptation. Qui l'organise? Qui y assiste?
Alors, c'est un symposium qui a lieu chaque année depuis 18 ans. Là, c'est une longue période. Et il est scientifique, mais il rassemble les cliniciens, les intervenants qui travaillent en centre de réadaptation, les chercheurs qui s'intéressent à la déficience visuelle et les étudiants aussi de ces chercheurs. Et des chercheurs internationaux aussi sont invités. Puis c'est une initiative, c'est un partenariat entre l'Institut Nazareth Louis Braille, qui est maintenant, qui fait partie du CIS de la Montérégie Centre, avec l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Alors, donc ça fait la 18e édition de ce partenariat qui a eu lieu là.
Est-ce que on parle de recherche? Est-ce que ça s'adresse à qui d'abord? Est-ce que ça s'adresse d'abord aux chercheurs, aux étudiants universitaires ou le public néophyte tel que moi pourrait y assister?
Oui, je dirais que ça, on parle de recherche bien sûr dans ce symposium, mais on parle des recherches actuelles qui peuvent intéresser tous les milieux. Donc chaque année, on a entre 150-200 personnes qui y assistent. Et il y a parmi eux des représentants des associations, des milieux associatifs qui viennent également pour faire un peu mettre à jour leur connaissance. Mais bien sûr, on trouve beaucoup, beaucoup de cliniciens donc, qui travaillent dans des centres de réadaptation, donc qui viennent mettre à jour leur connaissance aussi au niveau scientifique.
Justement, pour l'édition 2016, vous aviez choisi le thème de l'utilisation de la technologie dans la réadaptation. Est-ce que la technologie se fait de plus en plus présente dans un processus de réadaptation?
Alors là, oui, vous avez tout à fait raison. On n'échappe vraiment pas à la technologie, mais c'est aussi c'est une opportunité. Ça peut être une opportunité, la technologie. Ça peut parfois aussi être un obstacle pour les personnes qui ont une limitation. Donc, on peut dire que c'est au cœur de la réadaptation et que les interventions se font souvent avec comme support des technologies. C'est particulièrement vrai. En déficience visuelle, là, on travaille avec des ordinateurs, on travaille avec des tablettes électroniques, on travaille avec des nouveaux systèmes électroniques. Donc, ça avance à grands pas.
Si on fait un survol des présentations qui ont été données dans le cadre du symposium, sous quel angle est-ce qu'on abordait la technologie en réadaptation?
Alors, on a été très large et très inclusif pour donner un beau portrait de ce qui se présente à nous aujourd'hui. Donc, on avait un invité hollandais, on invite toujours quelqu'un de l'international pour voir un peu nos avancements, pour revoir les avancements ailleurs. Donc, c'était un Européen, un Hollandais, le docteur Bart Melis Trenken, qui était venu nous parler de la conduite automobile, donc de la façon dont, avec des technologies comme des systèmes de télescopiques bioptiques ou d'autres interventions, on peut, et avec des simulateurs, on peut évaluer dans quelle mesure quelqu'un qui conduit mais qui a une déficience visuelle peut conduire de façon sécuritaire. Donc, c'est sûr qu'on dépend beaucoup de technologies pour évaluer ce genre de choses. Et la Hollande est comme un précurseur, un pionnier dans le domaine de la conduite auto.
Donc, c'était un aspect qu'ils explorent déjà.
Qu'ils explorent déjà en Hollande depuis une dizaine d'années. Donc, au Québec, on a aussi un programme désormais, la conduite auto avec les systèmes télescopiques bioptiques, qui a commencé, je dirais, grosso modo, il y a 3-4 ans. Donc, on échange bien sûr beaucoup de façons de faire et d'évaluation, parce que bien sûr, l'objectif, c'est que tout cela reste sécuritaire. Donc, les personnes doivent apprendre des habiletés compensatoires pour réussir le permis.
Tout à fait, c'est justifié. D'ailleurs, on parle de conduite automobile.
Oui,
c'est un des exemples qu'il y avait. De quels autres aspects on a discuté?
On peut aller vers le pointu. Donc, cette année, on trouvait que c'était vraiment important d'en parler. Est entré en clinique ce qu'on appelle les implants sur la rétine. Donc, vraiment des implants qui vont permettre à des personnes aveugles de récupérer une certaine vision. Alors, c'est cette année-ci, au Québec, que la première personne a reçu un implant rétinien. Aux États-Unis, ça a commencé il y a un an. Donc, on a fait un peu le tour. C'était ma communication avec une personne, un optométriste de l'Institut. On a fait un peu le tour des avancées dans ce domaine et de ce qu'on peut en attendre.
Justement, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Comment est-ce que ça évolue? Car on parle cette fois-ci d'une intervention chirurgicale. Donc, il peut avoir des impacts très grands, finalement, chez la personne qui reçoit l'implant visuel.
Oui, tout à fait. Bien, l'implant visuel, c'est une technologie où c'est un influx électrique qui vient stimuler les cellules résiduelles de la rétine. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, mais nous avons fait le tour un peu de toutes les approches. Il y a aussi des approches qui envisagent d'activer des cellules au niveau du cerveau, donc au niveau cérébral. Donc, on aimait faire un peu le tour des progrès et on envisage que dans quelques années, non seulement il y aura des implants rétiniens, mais il y aura des implants sur le cortex visuel. Donc, on est vraiment à un grand tournant dans ce domaine-là.
Est-ce que ce sera quelque chose d'accessible pour la population québécoise?
À partir du moment où on peut démontrer par des recherches les bénéfices dans des études cliniques que ces implants peuvent apporter, c'est sûr que les autorités auront à se prononcer, bien sûr, sur les coûts et l'acceptation de ce genre d'intervention. Mais c'est ça que la recherche doit vraiment faire. Toujours démontrer les bénéfices pour les personnes. Et c'est sûr, ce n'est pas miraculeux. Donc, les bénéfices, il faut que ce soit avec un apprentissage des personnes pour bien utiliser ces nouvelles opportunités technologiques.
Mmh, c'est fascinant à entendre. On parle aussi de support visuel plus conventionnel, tel que l'utilisation des tablettes électroniques.
Oui,
c'est un grand changement il y a un accès beaucoup plus grand pour les personnes malvoyantes. Qu'est-ce qui se passait de ce côté?
Tout le monde utilise une tablette électronique de nos jours. Alors, un de nos chercheurs, Walter Wittich, a exposé un de ses projets où il évalue dans quelle mesure ces simples petites tablettes qui sont accessibles maintenant à beaucoup peuvent remplacer des aides plus dédiées et peut-être plus coûteuses aussi quand il s'agit d'agrandir le texte ou même au niveau auditif, d'améliorer la qualité sonore de ce qui est donné. Donc, il nous a parlé de ces premiers essais qui semblent intéressants pour les personnes avec une déficience visuelle.
Et on parle aussi de braille et technologie. Comment est-ce que ça peut cohabiter? En fait, comment ça cohabite? Parce que certainement que c'est possible.
Alors, c'est sûr que les personnes qui sont des braillistes, bien, souvent, elles peuvent déjà utiliser leur ordinateur en lisant, en faisant une lecture d'écran en lisant en braille. Donc, c'est sûr que les personnes qui utilisent le braille sont favorisées. Elles peuvent aussi utiliser, bien sûr, un output audio, donc une synthèse vocale. Mais l'enjeu ici est de se dire, puisqu'il y a de plus en plus de facilités vocales, etc., est-ce que le braille, quelles sont les difficultés auxquelles les personnes font face? Et aussi, est-ce que des brailles très complexes à apprendre, comme le braille abrégé, vont se faire remplacer ou pas par ces nouvelles technologies? Donc, c'était des thèmes importants à aborder aussi dans le cadre de la technologie et de la réadaptation.
Justement, on en a glissé brièvement un mot en début d'entrevue, mais il y a aussi les obstacles à l'utilisation de la technologie. On en a discuté durant le symposium.
Oui, effectivement. Donc, les choses ne sont pas toujours faciles pour les personnes. Par exemple, juste accéder à un site web, c'est pas... Généralement, les aides que les personnes utilisent, les aides informatiques, vont souvent avoir des obstacles pour que ce soit réellement accessible. À d'autres symposiums, on a déjà abordé cette problématique qui restera toujours.
Qui est récurrente.
Qui est récurrente. Mais justement aussi, même quand les personnes ne peuvent accéder, il est important parfois par des enquêtes d'aller chercher, d'approfondir un petit peu quels sont les problèmes qu'ils ont. Est-ce au niveau des services de réadaptation dont ils auraient besoin en plus, ou est-ce les sites qui sont moins accessibles ou les technologies qui sont difficiles à apprendre? Donc, un des conférenciers a discuté de cela avec le public, effectivement.
Est-ce que les coûts associés à l'implantation ou à l'utilisation d'une certaine technologie entre en ligne de compte?
C'est sûr qu'on est dans des périodes où tout coûte cher. Au niveau de la santé, c'est sûr qu'on a quand même au Québec de grandes économies qui se font. Mais tout est toujours à mettre en relation avec le bénéfice pour la personne. Donc, comme nous disons, nous, les chercheurs qui nous intéressons à ces questions-là, qui voulons être proches des services cliniques, il faut démontrer par des données qu'on appelle probantes qu'une nouvelle technologie, une nouvelle idée a des bénéfices importants pour le quotidien de la personne, pour son fonctionnement, pour sa participation à la société. Donc ça, ce sont des enjeux qui doivent être considérés par les autorités, bien sûr, qui sont décisionnelles à ce niveau-là.
Il nous reste une minute, Madame Ouanet. J'aimerais que vous nous disiez sur quoi vous travaillez en ce moment. Quels sont vos projets de recherche?
Alors là, la conduite automobile et justement les personnes qui sont en risque de perdre leur permis parce qu'elles ont une dégénérescence maculaire, par exemple. Alors, nous avons des laboratoires avec un simulateur de conduite automobile à l'INLB et nous développons des protocoles d'évaluation en toute sécurité, mais en simulateur. Nous avons aussi d'autres projets qui concernent des développements de nouveaux outils pour évaluer les habiletés visuelles des personnes qui ont une diminution de la vision. Nous avons aussi, je m'intéresse aussi au syndrome de Charles Bonnet, donc qui peut affecter certaines personnes qui ont une déficience visuelle. Donc le fait de voir, d'avoir des perceptions inhabituelles et nous voulons par cette façon-là pouvoir aider les personnes à en parler et à partager avec leur communauté les problématiques qu'elles ont.
Vous êtes très active. On va suivre ces dossiers-là. C'est très intéressant. Merci pour ce retour sur cette 18e édition du Symposium scientifique sur l'incapacité visuelle et la réadaptation qui se tenait cette année sous le thème de la technologie au service de la réadaptation visuelle. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est ce qui met fin à notre émission aujourd'hui. Je remercie mes invités en studio, Marie-Chantal Ouanet, chercheure responsable du site CRIRINLB, Sarah Rouleau de la Fondation des aveugles du Québec, et on avait commencé l'émission avec Geneviève Guibault d'Un œil différent et René Binette de l'Écomusée du Fiermonde. Je remercie aussi mon équipe technique à la recherche et aux médias sociaux, Christiane Campagna, à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.